Très bien, donc on va, on va reprendre. Après cette matinée très stimulante, au fond, un très bon démarrage, on va reprendre avec deux premières interventions, à la suite desquelles nous aurons un petit débat, et ensuite deux tables rondes, séparées par une pause, à la suite desquelles il y aura également à chaque fois un débat. Donc il y a un débat après l'intervention de Pierre de Lyon. Donc tout d'abord, je crois que c'est véritablement donner un sens au titre de ce congrès sur l'œuvre de François Zolto et qui est sur l'actualité de son œuvre, que d'avoir proposé à Bernard Golz et à Pierre de Lyon d'intervenir aujourd'hui. Ni l'un ni l'autre, à proprement parler, n'ont travaillé avec François Zolto, ni ne l'ont connu au sens d'échange de travail ou de formation. Mais tous les deux, évidemment, ont eu affaire à son travail d'une façon ou d'une autre. C'est certainement ce dont ils vont témoigner. Je ne les présente pas, ils sont tous les deux professeurs de pédopsychiatrie, à Necker, à Paris, à Lille, pour Pierre de Lyon. Et ils sont certainement ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans la pédopsychiatrie française, et ils sont ceux qui défendent la psychanalyse dans ce champ-là, d'où elle est petit à petit expulsée. Je crois que c'est une dimension extrêmement importante. Donc sans plus attendre, parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard sur l'horaire, je passe la parole donc à Bernard Golz. Tout est langage, info ou intox.
Bien. Alain, merci beaucoup pour cette très gentille, trop gentille introduction. C'est vrai que ça me fait très plaisir, vraiment très plaisir de participer à cet événement. Et en même temps, tu l'as dit à juste titre, je ne suis pas un spécialiste de l'œuvre ou de la pensée de François Zolto. J'ai eu, comme beaucoup de mes collègues, bien sûr, à réfléchir aux apports théoriques et cliniques tout à fait considérables de cet auteur hors du commun, mais je ne suis pas un proche, disons, ni de sa pensée, ni de sa pratique. La plus grande proximité que j'ai eue avec elle, c'est au fond de travailler à Trousseau, et de faire des consultations dans la salle où elle les avait faites elle-même quelques années auparavant. Voilà, donc j'étais très intimidé, j'étais jeune à l'époque, et très intimidé de m'asseoir sur le fauteuil qu'elle avait utilisé, mais c'est une proximité corporelle en quelque sorte, et décalée dans le temps. Voilà. Alors, je suis enseignant de pédopsychiatrie à Necker, et c'est vrai que je dois dire, alors peut-être c'est une note un petit peu, une constatation, une note un petit peu triste, mais il se trouve que dans tous les CHU que je connais, la pensée de Françoise Zolto n'est pas transmise aux étudiants en médecine en tant que telle. Il est vrai aussi que la forme d'enseignement de Françoise Zolto n'était pas une forme universitaire, mais qu'actuellement, dans le cursus de base des étudiants en médecine et des futurs psychiatres, il y a très très peu de contact avec son œuvre, alors que par ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, dans le grand public, dans les médias, dans les équipes de terrain, les personnes qui sont auprès des enfants, les éducateurs de jeunes enfants et bien d'autres, certains, les psychologues, bien sûr, certains psychanalystes, la pensée de Françoise Zolto est non seulement présente, mais enfin plus que vivante. Alors il y a un très grand décalage entre ce qui se passe à l'université et ce qui se passe dans la vie, si on peut dire. Je n'ai sans doute pas d'explication suffisamment affinée pour le comprendre, mais c'est un fait. Et dans le cadre de ce que je fais moi à Necker, bon, bien sûr, on évoque de temps à autre l'œuvre de François Zolto. J'essaie surtout de faire comprendre aux étudiants que, comme les grands novateurs, elle a ouvert un nouveau champ, qui est la psychanalyse vraiment de l'infance, en deçà du langage, et qu'elle a ouvert une nouvelle, et que pour cela, elle a utilisé une nouvelle technique, qui était la parole elle-même, puisque avec les enfants les plus jeunes, jusque-là, c'était surtout le jeu, le dessin, la pâte à modeler qui était utilisée, qui l'est encore. Mais en passant par la parole elle-même, c'était un nouveau champ, nouvelle technique, et je crois que c'est évidemment ça qui nous a ouvert des pistes considérables de réflexion. Alors ce que j'essaierai de faire là, dans les quelques minutes dont je dispose, c'est d'essayer de voir comment certains aspects de sa pensée concernant l'enfant sont aujourd'hui un petit peu revisités par les acquis de la psychiatrie du bébé qui a eu un essor considérable depuis 30 ou 40 ans. La psychologie du développement d'un côté, mais la psychanalyse du bébé aussi. Et il y a donc, je crois, des choses à dire par rapport à ce qu'elle nous a proposé, qui évidemment reste tout à fait stimulant. Alors, tout est langage d'abord, et ensuite le bébé et les mots. Alors, tout est langage. La psychiatrie du bébé, c'est en ça que moi, elle m'intéresse énormément. Elle nous propose une nouvelle compréhension de la sémiologie, c'est-à-dire de l'entrée du bébé dans le monde des signes. Hein, c'est vrai que l'enfant arrive dans un monde où il y a déjà de la pensée, où il y a déjà du langage, où il y a déjà des relations structurées, ne serait-ce qu'au niveau de son groupe familial et puis au-delà dans la société. Et pour donc il doit venir s'inscrire dans un monde où il y a déjà de la pensée, du langage et des relations. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est que alors on peut peut-être appeler ça un néo-constructivisme, je ne sais pas. En tout cas, chaque bébé, chaque enfant doit, avec les adultes qui prennent soin de lui, reconstruire à son niveau quelque chose, reco-construire avec eux quelque chose. Il doit, pour devenir un locuteur de sa langue, il doit construire quelque chose du code, d'intégrer le code du langage. Pour entrer dans les processus de pensée, il doit reco-construire avec les adultes qui s'en occupent les mécanismes de la symbolisation, par exemple. Et il doit aussi reconstruire avec eux les structures qui imprègnent, les structures relationnelles, qui imprègnent le monde dans lequel il est, mais qu'il a à nouveau à refonder, en quelque sorte. Hein. Et pour ça, il a besoin, bien sûr, et de son corps, et de la relation, c'est-à-dire dans la relation de la rencontre avec le travail psychique de l'autre. Oui, pour parler du langage, il faut essayer d'être entendu, effectivement, donc je m'approche. Voilà, donc il a besoin de son corps, il a besoin de la relation. Alors tout est langage. Le bébé nous apprend que pour entrer dans le monde des signes, moi, c'est quelque chose qui me fascine tout à fait. L'enfant va, au fond, partir de ses indices et, progressivement, ces indices vont devoir être tirés vers un statut de signe, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'indice, c'est, par exemple, le sourire aux anges du bébé qui témoigne d'un bien-être, probablement interne, de l'enfant, mais qui n'a pas, le sourire aux anges n'a pas en lui-même d'intention communicative particulière. C'est plutôt le reflet d'un état intérieur. Mais pour que le sourire aux anges devienne un sourire réponse, c'est-à-dire pour qu'il passe d'un statut d'indice simplement à un statut de signe qui a véritablement une intention communicative, il faut qu'il soit transformé, il faut qu'il soit tiré vers un statut de signe par la rencontre avec le travail psychique d'autrui. Et on a une sorte de gradient au fond qui s'établit entre des indices assez dépourvu d'intention communicative. L'indice maximum, si vous voulez, je sors du domaine humain, mais c'est la neige. La neige tombe. On peut, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, se dire, s'il y a de la neige, c'est qu'il fait froid. Mais à moins d'être mystique, il est difficile de penser que la neige a l'intention de nous dire qu'il fait froid. On peut en déduire qu'il fait froid. Ça, c'est un indice. Tandis que le signe, le langage au maximum, mais aussi les lapsus, enfin certains signes de la psychopathologie quotidienne, ont une intention communicative plus ou moins consciente ou inconsciente. Et entre les deux, et c'est là qu'il y a toute la médecine, on parle parfois de signes médicaux, mais les signes médicaux, c'est trop vite dit. En médecine, on a affaire à des symptômes qui sont de temps en temps plus près des signes et de temps en temps plus près des indices. Le gros foie, c'est comme la neige. Le gros foie, il n'a pas d'intention communicative particulière, mais quand il y a un gros foie, l'observateur extérieur peut en déduire quelque chose. Tandis que les lapsus, les oublis, les actes manqués, c'est déjà plus compliqué. Parce que il y a quelque chose qui ne voulait pas se dire, mais qui se dit quand même, il y a quand même une intention communicative inconsciente, au moins, quelque part. Et au milieu, il y a les symptômes médicaux, et les symptômes psychosomatiques, et les symptômes du bébé. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au fond, le bébé aujourd'hui nous apprend, nous redit que le langage est un symptôme. Le langage est un symptôme et il doit être tiré vers le statut de signe par la rencontre avec le travail psychique d'autrui. C'est-à-dire que la sémiotisation, l'attraction vers le statut de signe vient de l'autre. Le bébé arrive avec ses indices corporels et il doit rencontrer l'autre pour que ses indices corporels deviennent des signes. Alors là où la pensée, je crois, de François Dolto demeure extrêmement stimulante et questionnante, c'est que, comme je viens de dire les choses, l'intention, le circuit de l'échange, la communication vient de la rencontre. Alors qu'il me semble, mais peut-être je me trompe et on reverra ça dans le débat, c'est que dans la pensée de François Dolto concernant le langage, c'est qu'il y a chez le bébé d'emblée un désir inconscient d'exprimer quelque chose, même si ça n'est pas par les mots, mais par le discours corporel, le discours comportemental, le discours gestuel. Et là, on a, je crois, aujourd'hui, à re-questionner cette position de Françoise Dolto à la lumière de la sémiologie du bébé, qui nous montre la grande prévalence des indices au début, plutôt que de signes en tant que tels. Alors, maintenant, un aspect du langage, une partie du langage, c'est le langage verbal. Mais donc, on vient de voir, et là, je crois qu'il y a, une grande convergence entre les propositions de Françoise Dolto et la psychologie du développement précoce actuel. C'est vrai que tout peut faire langage, ça, et tout va faire langage. Mais dans ce discours global, il y a la partie verbale du langage, et là, on a des choses absolument fascinantes. Qui ont été découvertes au cours des 20 ou 30 dernières années et qui, c'est vrai, re-questionnent un petit peu le modèle de Françoise Dolto. Pour faire vite, il reste 10 minutes, c'est ça ? Pour faire vite, vous savez qu'il y a deux grands types de communication. Il y a la communication verbale, bien entendu, l'organisation du langage et des mots, des phrases, la syntaxe. On appelle aussi, en termes plus actuels, la communication digitale, parce qu'elle est découpable, segmentable, en de petits paquets d'informations, qu'on appelle des digits. Je ne sais pas si c'est pour faire chic ou si ça a un intérêt particulier, mais enfin, on appelle ça la communication digitale. Voilà, et qui véhicule surtout des idées, des concepts, des pensées, en tout cas, qui véhicule fortement la pensée dite rationnelle ou logique. Et c'est surtout l'hémisphère gauche, chez les droitiers en tout cas, qui est sollicité pour cette communication digitale. Et puis on a un autre type de communication que le langage ne remplace pas quand le langage arrive, que le langage vient s'ajouter à cette communication préverbale qui prépare le langage, cette communication préverbale qu'on appelle aussi analogique. Elle est plutôt prise en charge par l'hémisphère mineur, le droit chez les droitiers, mais surtout elle véhicule plutôt des affects et des sentiments, des émotions, que des idées au sens rationnel du terme, au sens secondarisé du terme, et surtout cette communication qui est les gestes, les mimiques, les regards, n'est pas segmentable, comme l'est la chaîne parlée au niveau des signes, phonèmes, monèmes, etc. La communication analogique est beaucoup plus globale, plus massive. Une mimique, ça ne se découpe pas. Pour savoir vraiment ce qu'il y a dans une mimique, il faut aller du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle les éléments suprasegmentaires. Alors évidemment, la communication préverbale, elle précède et elle prépare la communication verbale qui ne l'annulera pas. Il y a un très très beau poème d'un poète brésilien qui dit Mario Quintana, qui dit, et c'est très juste je crois, c'est très juste toute la vie, qui ne comprend pas un regard ne comprendra pas non plus une longue explication. Et c'est très très vrai pour les bébés. Et s'il n'y a pas quelque chose qui passe d'abord dans l'analogique, je crois qu'on peut tout essayer dans le digital, les choses sont mal parties. Alors ce qui est fascinant avec le bébé, c'est que, comment je pourrais dire les choses pour aller vite, c'est que dans la communication analogique préverbale, il n'y a pas que des gestes ou des mimiques ou des comportements, il y a ce que j'appelle moi aussi dans le langage, il y a un non-verbal du verbal. C'est-à-dire qu'il y a, dans le langage lui-même, il y a la partie des mots, la partie digitale, mais il y a aussi toute la musique du langage, la prosodie, le débit, le timbre, l'intensité, les césures, les scansions. Il y a toute cette musique du langage, cette prosodie du langage, qui est plutôt du côté de la communication analogique. Et la merveille du langage, c'est qu'il rassemble une partie digitale et une partie analogique, et qu'aujourd'hui, c'est là que peut-être il y a une petite divergence qui commence à s'instaurer avec les travaux de Françoise Dolto, c'est qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup d'études, beaucoup de données nous laissent penser que le bébé va entrer dans le langage, non pas tellement par les mots dans leur signification symbolique individuelle, mais qui va entrer dans le langage par la partie musicale du langage. On pourrait dire plus par l'énonciation que par l'énoncé. Il faut, par exemple, pour qu'un bébé entre dans le langage, il faut que l'entourage soit extrêmement intéressé par ses premières productions vocales, qui ne sont pas des mots, qui sont des sons, qui sont de la musique, qui sont des premiers enchaînements. Il faut que l'entourage soit intéressé par cette partie musicale du langage du bébé. Et puis je dirais qu'à l'inverse, il faut que dans le langage des adultes qui entourent le bébé, il y ait aussi des choses qui soient suffisamment intéressantes pour le bébé, qui capte son attention. C'est sûr que si on lui parle pas, ou si on lui parle tout le temps avec une voix sinistre, lugubre, ralentie, monotone, le bébé va se dire « à quoi bon ?» Hein, à quoi bon ? Le langage, c'est intéressant si on sent qu'on peut toucher l'autre, que ça fait quelque chose à l'autre. Hein, c'est toute la pragmatique du langage, la néo-pragmatique du langage. Comment est-ce que parler, c'est pas simplement se transmettre des messages. Parler, c'est faire quelque chose à l'autre. Il faut toucher l'autre. Il faut que quelque chose, comme les émotions, aille vers l'autre, touche l'autre, fasse rebond et revienne. Il y a d'ailleurs des gens qui ont des voix plus touchantes que d'autres. Il faut vraiment faire confiance au langage. Hein. Quand il y a des mots comme ça dans le langage courant, ça veut dire quelque chose. Il y a des gens qui ont des voix plus touchantes que d'autres. Il y a des gens qui ont des voix plus caressantes que d'autres. Le bébé est très intéressé par la voix de la mère. J'ai pas le temps de développer ce sujet-là, mais la voix de la mère, pour moi, c'est vraiment le premier opéra du bébé, hein, où la musique et le sens sont condensés, absolument. Alors, il nous semble aujourd'hui de plus en plus que le bébé va entrer dans le langage par la partie musicale du langage et qu'il n'a peut-être pas une connaissance innée, immédiate, implicite du sens symbolique des mots. Mais là, il y a discussion. Et par rapport à la question de la parole juste, la parole pleine, même un mot isolé a sa propre musique. C'est-à-dire que quand on prononce un mot à un enfant, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, aussi court soit-ce, aussi court que ce soit. C'est dans le temps. Et un mot juste, c'est-à-dire si on trouve avec un bébé un mot qui est vraiment juste pour ce qu'on a envie de dire, pour ce qu'on a envie de transmettre de notre vécu émotionnel, eh bien la musique de ce mot fait que le bébé va être intéressé par ce mot-là. Et j'insiste encore, je crois vraiment que ce qui va l'intéresser, c'est moi j'aime beaucoup la musique, mais c'est la justesse du mot, plus que tout de suite sa dimension symbolique qui va faire l'objet d'un apprentissage plus progressif, je crois. Voilà, alors je m'arrête là-dessus en disant que il faut dans tous les modèles qu'on peut proposer, il faut toujours essayer de distinguer les modèles qui sont valides des modèles qui sont utiles. Moi, je crois que en psychanalyse, dans le développement de l'enfant, en psychologie en général, on dispose de modèles qui sont parfois très utiles sans être forcément validés au sens de l'evidence-based medicine. Moi, je ne vais pas me battre aujourd'hui, par exemple, pour savoir si Françoise Dolto avait raison ou si les données actuelles sur la musique du langage sont plus justes. Ce que je sais, c'est que la position de Françoise Dolto, qui a dit « tout est langage et le bébé est sensible aux mots tout de suite », valide ou pas, ça a été extrêmement utile comme anticipation créative, pour induire des processus de subjectivation et pour considérer les bébés le plus vite possible comme des personnes en devenir. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Voilà, je ne vais pas du tout lancer la discussion tout de suite, mais je trouve que ce que tu as dit est très très intéressant. Ça interroge d'ailleurs un statut qui très fondamentale pour nous, qui est une question qui était un peu ouverte ce matin, je pense en particulier par Olivier Grignon, sur la question du statut de la théorie dans la psychanalyse et de son ancrage par rapport à la pratique même, hein, la façon dont... on y reviendra tout à l'heure. Et peut-être que d'ailleurs, la question du désir de communiquer chez Dolto et pas sans rapport, ou elle peut s'entendre aussi sur le fond de la formule, quand tu dis parler, c'est faire signe de quelque chose à l'autre, ou produire un effet sur l'autre, hein, qui peut être aussi une lecture, tout dépend à partir de quel point on situe l'intention ou le point d'origine. Donc on remet le débat avec Bernard juste après l'intervention de Pierre de Lyon, et on aura également un débat sur son intervention.